Bonjour, je me nomme Hélène Chabot et je suis professeure de philosophie au Cégep Gérald Bonnet. Je suis aussi co-chercheuse dans le projet ELAC, une nouvelle approche de l'enseignement de la lecture littéraire au collégial. Dans ce balado, j'interviewe des enseignantes et des enseignants qui ont expérimenté l'approche. Ils nous font part de ce qu'ils ont fait, de comment ils ont fait, des bénéfices encourus et des difficultés rencontrées, bref, de tout ce qui est susceptible de vous donner des idées et des outils pour vous lancer vous-même dans l'action. Dans cet épisode, j'interroge Marie-Ève Pellant, enseignante au Cégep André-Lorando, au sujet de l'importance de faire réfléchir les élèves sur leurs apprentissages en littérature. En bonus, elle nous parle de la réflexivité chez les enseignants via le journal de bord. Bonjour Marie-Ève, merci d'être là.
Bonjour Hélène, merci beaucoup de me recevoir.
On va parler aujourd'hui de réflexivité, qui est un élément de l'approche que tu avais expérimenté dans tes cours, mais que tu as amené un petit peu plus loin dans le cadre de l'expérimentation. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as accroché sur ce concept-là de réflexivité?
Bien, comme tu l'as dit, c'est déjà quelque chose que je faisais. Je trouve ça important que les étudiants aient des occasions de réfléchir à ce qu'ils font pour les mettre en action d'abord, mais aussi pour développer leur autonomie. Je trouve ça important aussi de leur offrir des occasions d'ajuster leur comportement, peut-être de revoir certaines stratégies, certaines façons de faire et de les aider à développer leur jugement.
Puis qu'est-ce qu'il y avait de nouveau que tu ne faisais pas avant que l'approche t'a apporté?
Je faisais plus réfléchir les étudiants par rapport aux évaluations, donc par rapport aux rédactions là, dans le cadre de cours de littérature. J'avais parfois posé quelques questions liées aux stratégies de lecture, mais grâce à l'approche avec une meilleure définition de la lecture littéraire, j'arrivais à les faire... C'est ça, j'ai fait plus réfléchir sur la lecture littéraire, sur le processus de lecture.
OK. Donc, pas juste la production et l'évaluation dans le cadre de rédaction, mais vraiment en cours de route quand on lit, puis qu'est-ce qu'on fait quand on lit, puis comment est-ce qu'on régule tout ça, ça faisait partie des éléments que tu as fait travailler par les étudiants pour les rendre plus autonomes, c'est ça?
Oui. Puis aussi, dans le cadre de l'approche, il y a la posture réflexive. Donc, comme le but de la lecture littéraire, c'est de s'enrichir soi-même, mais je les ai fait aussi réfléchir là-dessus. J'ai aussi trouvé que l'approche me permettait de développer un vocabulaire pour les faire réfléchir. Notamment avec toute la notion des savoir-être.
OK. Et ça, finalement, c'est des choses que, dans le cadre de tes cours, tu leur as enseigné, les différentes postures de lecture, les savoir-être, les stratégies associées à l'objectif qu'on poursuit, c'est-à-dire l'enrichissement par la lecture littéraire.
Oui, effectivement, j'ai fait de l'enseignement explicite de ces notions-là.
OK. Puis, en fait, tu donnes le cours littérature et communication, c'est ça?
Oui, au Cégep André Lorando, c'est le premier cours, c'est le premier cours de littérature des étudiants.
OK, donc c'est vraiment des débutants au Cégep. Alors, comment est-ce que ça a été intégré à ton cours? Comment tu l'as mis en place?
D'abord, j'ai commencé la session en leur faisant faire une carte mentale au centre de laquelle ils devaient écrire moi, lecteur, moi, lectrice, puis aborder différentes dimensions qui les définit comme lecteur, comme lectrice. Donc, leurs préférences, leur méthode de travail, leurs attitudes par rapport à la lecture. À la suite de cette activité, j'ai enseigné de façon explicite la lecture littéraire. J'avais également parlé des savoir-être avant, donc ils étaient invités aussi là, dans les attitudes par rapport à la lecture à intégrer les savoir-être. Et donc j'ai enseigné la lecture littéraire, puis ils devaient, en servant de leur carte mentale, rédiger un portrait de lecteur où, où il devait vraiment y avoir un lien entre leur méthode de travail, leur savoir-être et les objectifs de la lecture littéraire.
OK, donc ils
Donc.
devaient identifier finalement ce serait quoi leurs difficultés ou leurs défis, puis versus leurs forces quand ils vont se retrouver à lire finalement dans ton cours, c'est ça?
Oui, exact. Ça permet de voir si on a bien compris la lecture littéraire. Donc, si on me dit, par exemple, moi, une de mes forces, c'est que je lis toujours avec un crayon. Comme ça, ben, je repère bien les personnages et les lieux, puis j'arrive à bien comprendre l'histoire. Donc, là, je leur dis, OK, attention, hein, l'idée de la lecture littéraire, ça dépasse la simple compréhension. Donc, il faut aller un petit peu plus loin. Donc, ça me permettait de voir ceux qui avaient bien compris l'objectif qui est plus lié justement à l'interprétation, à l'analyse, puis ceux qui vont même un peu plus loin, qui sont capables de nommer des fois ce que la lecture peut avoir comme effet là, sur eux.
OK, donc là, on parle finalement dans, ce que tu donnes comme exemple de rétroaction, c'est l'élève parle de posture descriptive alors que toi, tu veux les amener à la posture analytique qui demande finalement de dégager du sens à travers les éléments plus descriptifs, c'est ça?
Oui, tout à fait.
OK. Puis, donc ça, c'est la première séquence, la carte mentale avec le portrait de lecteur. Ensuite, c'était quoi l'étape suivante?
Ensuite, à la fin de la. Ben, ensuite, on s'est engagé à la lecture de la première œuvre et il n'y a pas eu beaucoup d'éléments de réflexion pendant cette lecture-là, mais à la fin, ils ont fait un bilan réflexif, donc afin de voir un peu comment cette œuvre-là a eu un impact sur eux. Là, je leur parle d'un possible impact sur le regard qu'ils posent, soit sur eux-mêmes, sur leur savoir-être, ou sur le monde, ou sur l'altérité portée par le texte. J'essaie de minimiser parce que je veux pas qu'ils sentent le besoin de sentir une grande transformation, là. C'est vraiment. C'est
Ça
pas
peut être
ça
plus
le.
subtil, là.
Ça peut être plus subtil, puis je trouve que. J'essaie de leur expliquer que la réflexion, en fait, c'est le lieu de la transformation. Donc, en fait, je leur présente cette réflexion-là comme. Qui doit vraiment partir de l'interprétation, de leur interprétation du texte. Donc, d'abord, ils présentent en un paragraphe leur interprétation du texte. C'est le point de départ de leur réflexion. Puis là, ils s'engagent dans une réflexion au bout de laquelle, possiblement, il y aura quelque chose qui va émerger. Donc, c'est un petit peu le principe. Puis cette chose-là qui émerge, bien, devrait être cohérente avec leur interprétation. Donc, s'ils ont senti dans leur interprétation que l'auteur cherchait à sensibiliser, montre qu'on a lu un texte, un récit concentrationnaire, à dénoncer la déshumanisation vécue, bien, il fallait que l'effet qui soit que ça ait eu sur eux, ça a été de voir à quel point ça a été l'horreur pour que ça soit lié à la dénonciation. Ou s'ils ils ont ressenti qu'ils ont réfléchi à l'humain, qu'est-ce que c'est, tout ça, ben peut-être que l'objectif de l'auteur, c'était justement de faire réfléchir. Donc, dans les cas où c'était pas cohérent, ben, j'ai pu aussi montrer comment, en fait, la posture réflexive s'intègre dans le processus de la lecture littéraire, là, qui peut nous permettre de revenir à la posture analytique, puis de dégager du sens.
Donc, finalement, l'un nourrit l'autre. La posture réflexive nourrit la posture analytique et vice-versa. C'était la première fois que tu faisais ce genre d'activité. Tu avais déjà fait des activités dans le genre de pour susciter la réflexion, la réflexivité, mais aussi la régulation chez les étudiants. Mais ça, le bilan réflexif sur la lecture, c'était la première fois. Est-ce que ça a eu quoi comme, tu sais, ça a donné quoi finalement? Est-ce que tu as trouvé des choses intéressantes dans ce que les étudiants ont fait? Est-ce que c'est quelque chose de difficile ou facile pour eux? Finalement, ça a donné quoi?
Ça permet de voir rapidement si l'étudiant a bien compris, si l'étudiant a bien compris l'œuvre. Puis son engagement par rapport à la lecture. Donc, il y a des... comment je pourrais... Il y a des étudiants qui arrivent avec des réflexions qu'on sent qu'elles ont été suscitées par l'œuvre, puis que ça les a amenés là, à avoir quelque chose, que ce soit sur eux ou sur le texte. Puis, il y a des étudiants qui arrivaient à des réflexions qui n'étaient pas tellement cohérentes avec le propos de l'œuvre. Donc là, on sentait que dans la lecture, il y a quelque chose qui n'avait pas bien été. Il y avait des biais de lecture qui avaient nui, en fait, à la plausibilité de leur interprétation.
OK.
Donc, par exemple, pour un récit concentrationnaire, il y en a qui arrivaient à la conclusion dans un contexte de... Présentement, il y a une guerre en Ukraine, là, dans ce contexte-là, que ben on est donc bien, puis que ça fait du bien qu'il n'y ait plus de guerre, puis qu'on... OK! Donc, c'est quoi l'engagement dans la lecture, puis on sentait vraiment un décalage, là, alors que le propos de l'œuvre n'est pas du tout de ce côté-là non plus.
Oui.
Au contraire. Donc, okay. Voilà.
Puis, ça, c'était évalué, finalement.
C'est évalué dans le cadre d'un portfolio.
OK.
Donc, la façon de l'évaluer, je me suis servi des critères développés par Catherine et Roxane là, dans le cadre de l'approche. Donc, il y a deux critères. Il y a une première partie où on évalue l'interprétation, donc la plausibilité de l'interprétation. Puis, il y a une deuxième partie où on évalue la cohérence de la réflexion par rapport au point de départ. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qui découle de la réflexion puis l'interprétation? Est-ce que ce lien-là, il est pertinent et cohérent?
Okay.
Donc, je ne peux pas aller évaluer, puis je leur dis, je ne peux pas aller évaluer la transformation. Donc, peut-être qu'il n'y en a même pas eu, ou parce que des fois, ça prend du temps.
Ça peut être artificiel aussi.
Avant d'évaluer tout ça. Donc, ce que je peux évaluer, c'est la cohérence. Puis c'est cette cohérence-là qui est intéressante dans le cadre de la lecture littéraire, dans le processus de lecture de toute façon. Donc, mais c'est évalué dans le cadre d'un portfolio. Puis c'est une activité que je fais à deux reprises. Donc, j'ai pu donner de la rétroaction à ceux pour qui ça avait moins bien été, pour qu'ils puissent s'améliorer là la deuxième fois. Puis quand ils arrivent à s'améliorer comme ça avec des activités qui se répondent dans le portfolio, il y a aussi là, des points là, qui sont attribués à ça.
OK. Ça, c'est pour le bilan réflexif, là,
ouais.
L'effet de l'œuvre sur l'individu. Je reviendrai peut-être sur le portrait de lecteur, parce qu'en tant que tel, ça, c'est plus par rapport à les stratégies de lecture, les attitudes qu'il faut avoir au moment de lire. À quel moment est-ce que les étudiants ont été invités justement à réévaluer leur portrait de lecteur ou essayer de voir quelle évolution ils ont eu? Comment ça s'est passé, cette partie-là?
Donc, le portrait de lecteur, la session dernière, j'avais fait une activité au milieu de la session pour revenir sur le portrait de lecteur.
Mm-hmm.
Puis, donc, à la suite de la lecture de la première œuvre, ils devaient... parler de leur posture de lecteur par rapport à l'œuvre. Donc, on va là faire ressortir des forces et des défis, mais là, vraiment liés à la lecture littéraire de l'œuvre. J'ai décidé de ne pas le faire cette session pour, à la place, faire deux fois le bilan réflexif. Parce que je trouvais important d'insister là, sur le but ultime de la lecture littéraire, qui est l'enrichissement de l'individu. Puis aussi, comme c'est une activité qui est quand même qui est pas facile, le bilan réflexif, je trouvais ça important de le faire deux fois. Donc, ce que j'ai fait à la place cette session, c'est que à la pendant la lecture de la deuxième œuvre, dans le cadre de mon cours, il y a juste deux œuvres, donc la deuxième et dernière œuvre, rendu à la moitié de l'œuvre, je les ai fait remplir une grille d'auto-évaluation liée à différentes dimensions de la lecture. Donc, ça va des dimensions gestion de la motivation à posture, sa posture analytique, en passant par est-ce que je lis dans un bon lieu, est-ce que ma méthode est efficace, tout ça. Donc, pour chaque dimension, j'ai indiqué des indicateurs qui montrent que cette dimension-là va bien. Et là, ils devaient cocher si c'était si tout allait bien ou s'il y avait des éléments à modifier et commenter. J'ai beaucoup aimé cette activité-là parce que je pense que c'est pas très long à faire pour eux. C'est pas très long à corriger, puis c'est assez efficace pour voir ce qui fonctionne pas bien, pour arriver à des pistes de solutions. Mes critères pourraient être un peu plus précis. J'insisterai davantage la prochaine fois sur le fait de bien cerner les difficultés. Parce qu'en cernant bien les difficultés, c'est plus facile de suggérer des pistes de solutions. Et s'ils n'arrivent pas à en suggérer, bien moi, je peux leur en suggérer. Et évidemment, là, je corrige avant qu'ils se mettent à lire la suite de l'œuvre, qu'ils puissent s'ajuster. Puis aussi, ce que j'ai aimé de ma grille, c'est qu'il y avait des éléments qui, des fois, peuvent se recouper. Ça permet un peu de valider si le travail a été fait avec du sérieux. Donc, si la motivation, c'est difficile, mais que tout va bien dans le reste, ben, il y a peut-être... c'est sûr que si la motivation est difficile, ça se peut que tu aies de la difficulté à laisser des bonnes traces de lecture, par exemple. Ou parfois, ils disaient que leurs traces de lecture étaient tout à fait correctes. Alors que dans les critères pour les traces de lecture, ben, je leur demande d'avoir des traces, par exemple dans l'œuvre, qui vont mettre en évidence plusieurs dimensions de l'œuvre, mais en plus qui permettent de dégager du sens. Donc peut-être de nommer un ou deux thèmes par chapitre, de nommer quelques effets perçus là, en lien avec des passages significatifs. Donc, parfois, il me disait que là, tout allait bien, mais il avait coché qu'il y avait de la difficulté avec la posture analytique. Mais ça, ces traces-là relèvent de la posture analytique. Donc, il y a une incohérence. Donc, ça me permettait de soulever des points comme ça.
Donc, encore une fois, ça permettait de mettre des mots sur ce qu'on attend d'eux puis comment est-ce qu'ils doivent le faire. Puis à ce moment-là, d'eux-mêmes évaluer s'ils atteignent ces attentes-là.
Tout à fait. Ça permet de devenir autonome aussi.
Oui, c'est ça.
De penser la prochaine fois à se fixer des objectifs de lecture, à mettre en place une méthode de lecture. Donc, voilà.
Mais ce que tu dis, c'est qu'ils avaient de la difficulté, même avec une grille, à cerner ou à identifier correctement c'était quoi leur difficulté.
Ils étaient peu nombreux à avoir eu cette difficulté. Il y a vraiment, c'est une activité que... Il y a plusieurs étudiants qui ont très bien réussi cette activité. On voit qu'on est un petit peu plus loin là, dans la session. Puis, j'ai pu voir que plusieurs étudiants ont compris des éléments importants de la lecture littéraire, puis de la posture analytique. Puis, donc, il y avait encore quelques étudiants qui avaient des difficultés, comme toujours. Mais non, au contraire, ça a permis de voir comment ça commence à être maîtrisé par la plupart d'entre eux.
OK, mais c'est encourageant. tu as aussi fait des activités de ce type-là, mais cette fois-ci par rapport aux rédactions. Est-ce que tu veux partager ça aussi?
mais par rapport aux rédactions, comme je le disais au début, là, j'en fais souvent. Notamment, je travaille avec le questionnaire d'attribution causale, c'est-à-dire qu'avant, au début, là, d'une rédaction, je leur demande de commenter leur préparation. Tout de suite après l'avoir terminé, je leur demande qu'est-ce qui s'est bien, moins bien passé. Puis au moment où je remets le texte corrigé, bien, il y a encore des questions de réflexion. Il y avait aussi des éléments, souvent des questions où il y avait l'occasion de revenir sur des erreurs, autant en langue qu'en littérature, là. Mais là, j'ai essayé une activité, donc vraiment, c'est dans le cadre du projet, qui visait plus à développer le jugement. Donc ça, j'avais jamais nécessairement travaillé ça, vraiment d'aller donner des occasions aux étudiants de commenter les raisons pour lesquelles ils font tel ou tel choix. Donc là, l'activité était assez complexe. Donc c'était le retour d'une première rédaction. Une première rédaction dont l'objectif était surtout de travailler la situation d'expression, c'est-à-dire le type de texte. Donc le fait de rédiger au présent, de tenir compte de son lecteur fictif, de la structure, tout ça, le discours. Et c'est ce que j'avais commenté. Donc, ceux pour qui ça ne s'était pas bien passé, ces dimensions-là, donc le respect des normes, le respect de la bonne posture, là, la posture de rigueur pour le discours, eux devaient réécrire leur texte, mais avant de faire une réécriture, ils devaient auto-évaluer leur texte avec une liste de vérifications, ensuite faire une réécriture, puis justifier leur choix, expliquer un peu leur choix dans la réécriture. Ensuite, j'avais des étudiants qui avaient, pour ça s'était bien passé, mais qui montraient des grandes faiblesses en langue. Donc, ces étudiants-là, je les faisais retravailler la langue, donc inventaire des erreurs et correction justifiée. Puis, il y avait des étudiants pour qui tout s'était bien passé. Et donc, ces étudiants-là, je les ai fait travailler les critères liés à la lecture littéraire. Donc, la plausibilité, la justesse, la plausibilité de l'interprétation, puis la richesse de l'interprétation. Et là, ils devaient auto-évaluer leur texte avec une liste de vérification, puis se juger, en fait, avec ma grille d'évaluation, s'attribuer une note et justifier leur note.
C'était en fonction de critères que tu n'avais pas évalués à ce moment-là, mais que eux devaient appliquer pour faire
Exact.
l'activité, c'est ça.
Donc, c'est des
Des nouveaux
nouveaux
critères.
critères dont on avait déjà parlé. C'est une activité qui s'est plus ou moins bien passée. D'abord parce que ça a fait beaucoup de consignes, un peu en même temps pour trois groupes différents. J'avais fonctionné avec des codes de couleurs, un PowerPoint, des couleurs différentes pour tout le monde, tout ça. Mais là, bon, il y avait une petite surcharge. Puis, cette activité a montré qu'ils connaissaient peu les critères, même si je les avais quand même enseignés, qu'ils les comprenaient peu. Puis c'est vraiment la base pour être capable de s'auto-évaluer, pour porter un jugement. Bien, il faut connaître le critère. Donc l'étudiant qui met un S à un mot mais qui ne sait pas pourquoi, bien, au fond c'est la règle qu'il ne connaît pas. Donc ça montre vraiment ça a été le point positif. Ça a permis de voir ce qu'il ne savait pas. Après ça, j'ai pu revenir. Mais c'est ça, je trouve qu'il y a une piste intéressante là pour développer le jugement, donner les connaissances nécessaires pour poser le jugement, mais ça serait quelque chose à mettre en place vraiment sur plus peut-être quelques cours
Parce
avec des
que
activités peut-être un peu plus simples au départ puis qui se complexifient par la suite, là.
c'est ça, parce que c'était beaucoup demandé qu'ils soient déjà autonomes là, à ce stade-là dans l'évaluation des critères, dans le jugement, puis dans
Oui.
la régulation, la correction finalement de ce qu'ils avaient fait, là.
Mais c'est ça. Mais après ça, il y en a qui sont venus travailler avec mon bureau puis qui ont vraiment bien compris. Il y en a d'autres qui étaient un peu moins engagés. Mais
Fait que ça aussi, c'était nouveau. Finalement, est-ce que ce sont des choses que tu referais? Puis si oui, est-ce qu'il y aurait des choses à changer ou
oui, c'est ça. Bien, il y aurait des petites choses à changer. Comme je disais, peut-être simplifier les activités puis les étaler un petit peu plus. Mais certainement, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais approfondir, la question du jugement. Donc, encore continuer de donner l'occasion de réfléchir à ses actions, puis de voir le lien entre sa préparation puis son résultat. Je pense que c'est intéressant. Tout ce qui est lié à la lecture littéraire aussi, là, le portrait de lecteur, puis le bilan réflexif à la suite d'une lecture. Ça aussi, c'est des choses que je referais. Mais surtout, je pense que pour faire des activités complexes comme ça, en fait, j'utiliserais un peu le cadre dans lequel on a été mis dans l'approche, c'est-à-dire que chaque mois, on devait remplir nous-mêmes un journal de bord. Puis, c'est intéressant parce que là, je parle d'activités réflexives pour les étudiants, mais il y a aussi tout le volet hein, la pratique réflexive chez les enseignants. Et j'ai conçu ces activités-là via le journal de bord. Donc d'abord en fixant dans le journal de bord là, comment c'était fait. Peut-être que tu peux
Oui,
l'expliquer
bien, en
un
fait, on invitait tous les participants et participantes au moment d'expérimenter les éléments de l'approche, de remplir un journal avant les séances de co-développement. Puis, dans ce journal-là, tu me diras si je me trompe, mais on devait donc, les participants et participantes devaient identifier l'élément de l'approche, qu'est-ce qui va être expérimenté. Mais aussi, surtout, comment est-ce qu'on va vérifier qu'on a atteint notre objectif. Parce que le but, c'est que le prof lui-même se fixe un objectif, mais aussi qu'il identifie comment est-ce qu'il va vérifier si cet objectif-là est atteint ou pas. Et donc là, on remplissait cette grille-là qui était formatée là, avec des questions, puis faire un bilan avec ça de l'expérimentation qui a été faite. Donc, toi, ce que tu dis, c'est que cet outil-là, on pourrait le transposer dans une activité pour les étudiants.
Je pense que je repasserai par une grille comme ça. Donc, j'ai bien envie de me faire un format de grille, de journal de bord moi-même pour avoir continué cette pratique réflexive-là, même en sortant du projet. Et effectivement, donc, ce qui était bien, c'est qu'on se fixe un objectif, puis ensuite, on définit nous-mêmes, là, ça va être quoi le comment on va vérifier l'atteinte de notre objectif. Et c'est peut-être quelque chose aussi qui pourrait être développé avec les étudiants. Donc, de leur permettre de se fixer des objectifs et de choisir eux-mêmes comment ils vont vérifier qu'ils l'ont atteint. Ça aussi, c'est quelque chose quand même qu'il faut travailler avec eux parce que même moi, j'avais tendance des fois à choisir des éléments peut-être. Je voulais pas trop me commettre, en fait. Donc, je me disais, OK, ben, un coup, je vais avoir une fois ou deux de telle chose. J'exagère un peu, là, mais ça va être correct. Mais des fois, c'était pas cohérent avec mon objectif. Parce que si je veux développer le jugement, par exemple, ben, ça va prendre une bonne preuve que j'ai développé le jugement. Donc, c'est ça. Donc, des fois, ça serait, c'est ça. Pour que les étudiants arrivent à formuler eux-mêmes, là, leur façon, les critères qui vont indiquer qu'ils auront atteint l'objectif, ça va demander un peu d'encadrement là, de la part de l'enseignant.
Oui, c'est ça. C'est très intéressant le rapport entre l'élève et l'enseignant de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Marie-Ève, d'avoir partagé ça. Est-ce que tu accepterais de partager tes outils, quelques-uns de tes outils, avec les professeurs via notre site web? Parce que je suis sûre qu'il y en a qui vont être inspirés par ton témoignage.
Oui, absolument. Je peux mettre les consignes des travaux dont j'ai parlé aujourd'hui.
Ce serait très apprécié. Merci beaucoup, Marie-Ève.
Merci à toi.
L'approche de l'ELAC a été développée dans le cadre d'un projet de recherche soutenu par le programme PAREA avec Catherine Bélec et Roxane Doré. Pour plus d'informations, consultez notre site web elac.ca. Ce balado a été rendu possible grâce à l'Élan. La captation sonore et le montage sont réalisés par Rémi Assal.